Revenez, frère, revenez. En juillet 1220, alors que François faisait des projets d'avenir, arriva d'Italie frère Étienne, porteur de nouvelles inquiétantes. En l'absence de François, au chapitre de mai, Mathieu de Narni et Grégoire de Naples, les deux vicaires chargés de veiller sur la fraternité, avaient pris sur eux d'y apporter des changements, et la division s'était faite entre les frères. Les modifications étaient multiples. L'une des plus importantes concernait les règles du jeûne, que l'on voulait conformes à celles des ordres existants. C'était un pas vers la transformation de la fraternité en ordre. D'autre part, Jean de Capella, un des premiers frères, avait fondé un ordre de lépreux, et Philippe le Long avait obtenu d'Hugolin et de la Curie des privilèges pour les pauvres dames dont celles-ci ne voulaient à aucun prix. Le bruit courait que François était mort. Frère Jourdain de Giano relate que François a appris ces choses alors qu'il dînait avec Pierre de Catane, ex-juriste, à qui il demanda calmement ce qu'il convenait de faire. « C'est vous qui êtes le maître. À vous de décider. Je suis prêt à vous obéir. »« Eh bien, maître Pierre, obéissons à l'Évangile qui nous commande de manger ce qui est placé devant nous. » François n'était pas homme à perdre la tête. Dès que cela fut possible, il s'embarqua avec Élie, Césaire de Spire et Pierre de Catane, et le bateau cingla vers l'Italie. François dut comprendre alors pourquoi on n'avait rien fait pour le retenir quand il eut décidé de se rendre en Syrie. De Saint-Jean d'Acre à Venise, si les vents sont favorables, il faut compter 3 semaines, le temps de réfléchir. Et où mieux réfléchir qu'en pleine mer? François tourne et retourne dans sa tête les fâcheuses nouvelles que frère Étienne lui apportait. Et il prie, cela va de soi. On lui a quelquefois fait entendre qu'il lui manquait le sens de l'organisation. Peut-être Dominique de Guzman l'a-t-il insinué quand il assista au chapitre des nattes. Et en effet, la fraternité se désorganise. Élie, qui voyage avec lui et qu'il aime, voudrait lui être utile dans cette épreuve. Mais que pense Élie? Très difficile de le savoir. Il n'est pas homme à se livrer, mais il voit venir sa chance de gloire. François n'est pas un rêveur quand il s'agit de sa fraternité. Son absence, il le voit bien, l'a mise en péril. On veut en faire un ordre. Pour la sauver, il faut la dédoubler, créer une fraternité parallèle. Il y en a déjà une pour les hommes, les frères mineurs, une pour les femmes, les pauvres dames. On en fera une pour tout le monde, hommes et femmes qui, sans quitter le siècle, vivront selon la règle franciscaine. Et puisqu'on veut mettre des ordres partout, ce sera le troisième, le tiers ordre. Il ne perdait pas de vue qu'il fallait sauver tout le monde, c'était là son rêve absolu. Tout porte à croire cependant qu'il garda la sérénité, car arrivé à Venise, il prit le temps de faire une retraite dans une île de la lagune, l'île du désert. Il dut obtenir le silence des oiseaux qui poussaient des cris de joie à sa vue. Puis il écrivit à Sœur Claire, dans une sorte de prémonition de ce qui se préparait contre ses vœux. On voulait la priver de sa pauvreté. La lettre est trop belle pour ne pas la citer en entier. Moi, petit frère François, je veux suivre la vie et la pauvreté de notre Très-Haut Seigneur Jésus-Christ et de sa Très-Sainte Mère et persévérer en cela jusqu'à la mort. Et je vous prie, et je vous donne le conseil de vivre toujours dans cette très sainte vie et pauvreté. Gardez-vous bien de vous en éloigner jamais en aucune façon sur l'enseignement ou les conseils de qui que ce soit. Les craintes de François étaient bien fondées. Honorius III pressait Claire d'accepter le droit de propriété, mais elle était fidèle et ne trichait pas. À Orvieto, devant François, il ne fut pas question de privilège ou de modifier la vie des pauvres dames. Les bulles papales qui s'étaient succédées en 1219 et 1220, Cum Dilecti, Sacrosancta Romana,